Voilà, bienvenue à chacun. Ce matin, c'est le Seigneur qui nous accueille tous, qui nous rejoint dans nos parcours de vie, nos situations, et puis je crois qu'il nous parle à chacun de manière toute personnelle. C'est en tout cas notre prière pour ce culte de ce matin. Bienvenue à vous qui êtes dans cette salle. Et puis à vous qui avez été retenus à la maison et qui peuvent, on espère que la technique marche bien aujourd'hui, qui peuvent partager ce temps de culte avec nous à travers leurs écrans. On est en pensée avec Philippe, hein, qui est retenu pour un épisode de Covid, et on prie pour qu'il se rétablisse bien vite, que le Seigneur le renouvelle. Et puis aussi avec Jean-Christophe et Thiago, qui devaient normalement partager le temps de louange avec nous, puis qui sont aussi retenus à la maison. Voilà. Que le Seigneur les bénisse les uns et les autres. Je ne sais pas si parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà changé de nom dans leur vie ? Personne ici ? Ah. Ah. Je parlais du prénom. Je parlais du prénom, ouais. D'accord, merci. Je ne sais pas, peut-être que Célina nous dira un mot du sien, je ne sais pas. Moi, j'ai travaillé à l'accueil des réfugiés qui venaient du Laos, du Cambodge, du Vietnam en France. Hein, c'était entre 77 et 84. Mais il y a plein de gens qui ont changé de nom. Il y a des gens qui pensaient qu'ils devaient changer de nom pour être un peu mieux français ou un peu mieux acceptés en France. Voilà. Il y a peut-être aussi des gens qui ont changé de nom parce qu'ils avaient des noms trop imprononçables chez nous. C'est vrai que j'ai mon ami, le pasteur laotien, si je dis son nom en bref, Van, ça va. Mais le jour où les gens d'Emmaüs devaient lui donner son diplôme et prononcer son nom complet laotien, Bunpanumvan Krensombat. Ils étaient un peu empruntés pour réussir à prononcer ce nom. Alors il s'appelle Marc, moi je l'appelle toujours Van, mais si on veut lui envoyer un chèque, il faut mettre Marc, parce qu'il a mis Marc sur son nom officiel. Et puis il y en a qui ont même des enfants nés en France, ils ont tous, ils ont beaucoup deux noms. Un nom laotien, un nom français. J'ai un ami qui a un pasteur qui a eu 7 enfants et puis ils ont presque tous 2 noms. Alors moi, j'ai un peu de peine à suivre et à me souvenir et à ne pas me perdre. Alors tout ça, un peu en lien avec ce qui se passe quand on est dans une autre culture, dans un autre pays, dans une autre langue. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu cette sorte de déracinement, mais un peu en tant que privilégié, puisque c'était un déracinement choisi. N'empêche qu'il arrive qu'on se trouve dans des situations où on ne comprend pas trop ce qui se passe, et aussi dans des situations où on est un peu embarrassé. Il m'est arrivé d'être embarrassé dans une situation où il y a des composantes très religieuses, des rites bouddhistes, je ne sais pas très bien ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Mais il y a plein de gens aujourd'hui, comme toujours en fait, qui n'ont pas choisi d'être dans une autre culture. Il y a des gens qui ont dû fuir leur pays parce que c'était devenu invivable, qui sont persécutés ou en danger de mort, ou simplement ils n'ont plus les moyens de vivre. Et puis le pire, c'est ceux qui sont carrément chassés de chez eux ou déportés. Et il y a des situations comme ça aujourd'hui. La Bible, elle s'enracine dans des événements comme ça, puisque l'événement fondateur pour le peuple juif, ça a été l'Égypte, où ils étaient en esclavage et où ils ont été une libération extraordinaire qui est un peu le fondement, quelque part, de leur foi dans un Dieu qui sauve. Mais à l'autre bout, alors qu'ils avaient quand même leur pays, leur temple, leur ville, ben voilà, ils se sont fait envahir par une puissance impérialiste étrangère, et pas seulement envahir, mais déporter. Et vous savez que ces déportations, c'est... même quand ce n'est pas des déportations, c'est des choses qui traumatisent et les gens qui sont, doivent retrouver un autre pays, et le pays lui-même, où il reste des gens, mais où les forces vives sont parties. C'est ce qui s'est passé un peu quand j'étais au Laos. On est parti en 75 à cause de la situation politique. Le pays a perdu plus de 10% de sa population. Et c'est aussi un traumatisme pour un pays qui perd ses forces vives, qui perd la majorité de ses gens formés, etc. Et finalement, c'est peut-être en grande partie à cette expérience douloureuse du peuple juif qu'on doit ce livre. Ils ont perdu tous leurs repères et ils ont dû approfondir leur foi pour qu'elle s'enracine dans une parole et pas seulement dans un lieu, des rites ou des choses dont on a l'habitude. Et avant de passer un moment de louange, j'aimerais vous lire un psaume qui est une force poétique assez extraordinaire qui exprime cette perception d'un peuple qui a perdu son pays. C'est le psaume 137. Alors, je ne lirai que les 6 premiers versets. Si vous avez la curiosité de lire les derniers versets à la maison, vous comprendrez pourquoi je n'ose pas les lire sans commentaire ici. Assis au bord des fleuves à Babylone, nous pleurions en évoquant Sion. Nous laissions nos guitares suspendues aux arbres de la rive. Et là, ceux qui nous avaient déportés osaient nous réclamer des cantiques. Nos persécuteurs exigeaient de nous des chants joyeux. « Chantez-nous, disait-il, un des cantiques de Sion. Mais comment pourrions-nous chanter un cantique de Sion sur une terre, un cantique du Seigneur sur une terre étrangère ?» Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, eh bien que ma main droite se paralyse, si je cesse de penser à toi, si je ne fais pas de toi ma suprême joie, eh bien que ma langue se colle à mon palais. Voilà, je propose d'entrer maintenant dans un temps de louange. Pour louer Dieu, mais aussi pour nous mettre à son écoute, avec 3 chants.
Je chanterai gloire. de ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
Quel amour et quel prix nous
le troisième chant, c'est pour nous mettre à l'écoute du message que Célina nous transmettra de la part du Seigneur. Seigneur, nous te remettions Célina maintenant dans ce temps où elle va partager des pierres précieuses de ta parole. Amen.
Ça va, vous m'entendez bien? Oui? Alors, bonjour à chacun, à chacune, et bonne année à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonne année. Et bienvenue à vous qui êtes chez vous et qui nous rejoignez aussi par vos pensées, vos cœurs et Internet. Et bienvenue à Babylone, même si c'est une arrivée à Babylone contrainte et forcée. Vous avez une image de Babylone derrière nous. En entrant dans le livre de Daniel, on a envie de prendre une grande bouffée d'air, car nous plongeons dans une histoire terrible, celle de l'exil. C'est une traversée en apnée qui se déroulera en plusieurs étapes que nous vous proposons avec Philippe sur plusieurs dimanches dans le livre du prophète Daniel, qu'on étudiera des chapitres 1 à 6 parce qu'on ne se sentait pas trop d'aller décrypter les passages apocalyptiques. Ce matin, plongeons la tête la première dans ce livre. Lorsque le petit état de Juda a perdu la face contre l'immense empire de Babylone, il ne restait plus rien de Jérusalem. Un petit roi judéen, Joachim, a été écrasé sous la domination du monstre babylonien Nabucodonosor. Jérusalem est ruinée. Jérusalem est dépossédée de ses biens. Jérusalem est vidée de son peuple. L'exil des Hébreux s'est en fait déroulé en trois étapes. Et la première concerne le livre de Daniel. On a vidé Jérusalem de tous les notables, de tous les intellectuels et de tous les artistes. Je lis Daniel 1 à partir des versets 3, du verset 3. Le roi Nabucodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, avoir belle apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin d'être capables de servir le roi dans son palais. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient au service du roi. Parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui de Abednego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel : « C'est le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, Michaël, Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. » L'intendant accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on constata qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des plats de la table royale. C'est pourquoi l'intendant responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans le domaine de la littérature et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Au terme du délai fixé par le roi Nabucodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres et c'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. La situation de Daniel resta inchangée jusqu'à la première année de Cyrus le roi. On a vidé Jérusalem de tous les notables, de tous les intellectuels et de tous les artistes, pour qu'ils puissent à leur tour venir nourrir l'insatiable appétit du faste de Babylone. Babylone était une immense ville de Mésopotamie, aujourd'hui en Irak. C'est sur les bords du célèbre fleuve l'Euphrate. Babylone, c'est Babel. C'est là où s'est déroulé l'épisode de la tour du même nom, en Genèse 11. C'est là où les êtres humains ont été jetés dans la confusion en perdant leur langage commun. Et c'est dans cette même confusion que bien des siècles plus tard vont entrer ces 4 jeunes juifs. Car l'ouverture du livre de Daniel, c'est bien un choc des cultures. L'arrivée dans un monde immense, effrayant et inconnu. Pourtant, les conditions de l'exil semblent plutôt confortables à première vue. Les exilés sont accueillis avec du vin royal et les mets les plus raffinés. Le buffet d'accueil fait plutôt saliver, non? Imaginez un instant, voilà de tout jeunes gens forcés de quitter leur patrie en ruine et après un très long voyage vers l'inconnu, les voilà arrivés dans cette ville, cette cité au jardin suspendu, une des 7 merveilles du monde. Les voilà choisis pour entrer dans le service royal. Tout pour leur en mettre plein les yeux. À leur jeune âge, je pense qu'il aurait été très facile d'oublier leurs pauvres racines, leur dieu qui les a fait amener au désastre pour se jeter goulûment sur ce festin qui les entraîne vers un nouveau destin d'aristocrate babylonien. Certes, c'est une prison, mais au moins c'est une cage d'oreilles. Qui pourrait les en empêcher? Après tout, le roi de Jérusalem n'est plus, et il n'y a plus de temple ni de prêtre pour les guider, venir encadrer leur vie pour les emmener vers Dieu. Plus personne pour leur dire s'ils sont purs ou impurs. Les repères terrestres ont été balayés par le règne d'or de Babylone. Mais ces 4 jeunes gens appartiennent à Dieu. Et au fond d'eux a été placé quelque chose que rien ne peut détruire. La voix de Dieu. Le souffle de Dieu qui fait battre le cœur de tous les Juifs exilés. La parole de Dieu placé dans la bouche et dans le cœur. Dieu fait partie d'eux, peu importe où ils se trouvent sur la terre. Et c'est bien cela qui va faire pencher le cœur de Daniel. Daniel ne peut pas revenir en arrière, empêcher la destruction de Jérusalem ni la déportation du peuple. C'est bien trop tard. Il ne peut vivre que ce qui lui est donné de vivre aujourd'hui, même si c'est la catastrophe. Daniel et ses amis vont devoir se laisser babyloniser leur nom. Daniel, qui signifie « Dieu juge », va s'appeler Belshazzar, qui signifie « celui qui protège la vie du roi ». Comme si Daniel était forcé d'abandonner Dieu pour être soumis au roi de Babylone. Anania, qui signifie la grâce de Dieu, devient Shadrach, qui est sans doute un nom dérivé d'un dieu babylonien. Michaël, celui qui aime Dieu, devient Meshach, un nom qui se réfère aussi à un autre dieu babylonien. Et puis Azaria, qui signifie « Dieu m'a secouru », devient Abed-Nego, qui signifie en gros « serviteur du dieu Nego ». Nego. Ainsi, ces jeunes juifs sont non seulement poussés à s'assimiler à la culture locale, mais aussi à leurs croyances. Et c'est là qu'on voit se mettre en mouvement le discernement qui habite Daniel. Parce qu'un nom n'est qu'un nom. Et les Babyloniens peuvent bien le changer. Mais cela ne changera pas qui est Daniel au fond de lui. S'il ne s'oppose pas à changer de nom, Il va pourtant négocier avec son geôlier pour la nourriture. Il va refuser le somptueux banquet qui lui est offert. Il va refuser le vin et les plats de viande pour ne manger que des légumes et boire de l'eau. Pourquoi a-t-il pris cette résolution ? Le problème de la nourriture pour les Juifs est toujours délicat. Alors, était-ce parce que la nourriture n'était pas cachère ? Était-ce parce qu'il s'agissait de nourriture présentée et consacrée aux dieux de Babylone ? Le texte ne nous le dit pas. Nabucodonosor voulait que ses nouveaux prisonniers bénéficient de ce qu'il y avait de meilleur pour les rendre meilleurs à son service. Mais Daniel ne voyait pas les choses sous ce point de vue. Le verset 8 nous dit que Daniel a décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture et le vin du roi. Mais le mot hébreu pour souiller, c'est ga'al. Et c'est le même mot, en fait, qui signifie être racheté. Je me demande alors si Daniel ne cherchait pas à dire qu'il n'avait absolument pas besoin de ce genre d'aliments pour s'en sortir, pour devenir intelligent et avisé. Car la vraie sagesse vient d'ailleurs. Daniel devait mettre en mouvement ce que Dieu avait placé en lui depuis toujours. Et si ce n'est pas au cœur de l'exil que cette sagesse devait développer toute cette force pour le soutenir au travers de l'épreuve, alors à quel moment ? Et c'est tout l'enjeu de ce chapitre et en fait du reste du livre. Daniel et ses amis sont contraints et forcés de se soumettre à un vaste système qui écrase tout et tout le monde sur son passage. Comment peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ? Comment peuvent-ils préserver ce qui les caractérise intrinsèquement ? En travaillant sur ce texte de Daniel 1, je n'ai pu m'empêcher de repenser au contexte de travail de mon mari. Et il me laisse ce matin le soin de vous raconter un épisode qu'il a vécu il y a 10 ans. Donc Joël, mon mari, est menuisier dans une commune de Genève. Et comme on est diffusé sur Internet, je ne vais pas dire le nom de la commune. En août 2013, son service a fait les frais d'un vaste coup de sac de la Cour des comptes pour détournement de fonds publics dans le service où travaille Joël. La police et le procureur de la République sont intervenus et ont interpellé 2 chefs de service. En vérité, plusieurs têtes sont tombées parmi les hauts fonctionnaires dans les mois qui ont suivi. Et c'était en fait l'arbre qui cachait la forêt, car en réalité, il s'agissait d'une revanche politique au sommet du pouvoir de la commune. Mais au bas de l'échelle, ce sont les nombreux employés qui ont le plus trinqué. Depuis des décennies, tout fonctionnait dans une sorte de système mafieux que les élites ont eux-mêmes mis sur pied. C'était une corruption masquée dans du copinage, comme Joël me l'a décrit. Il fallait connaître les bonnes personnes. C'était un vaste réseau bien ficelé où certaines personnes tiraient profit sans scrupule sur le dos des employés et des contribuables. Je me souviens à l'époque que nous avions parlé d'une boîte de vis, peu de temps avant l'intervention de la police. Et Joël vivait un dilemme, une sorte de tentation. Ça va, tu ne viens pas rouge ? Tout va bien. C'était celle de se servir pour un usage privé d'une boîte de vis appartenant à la commune. De toute façon, il y en a qui font bien pire. Et tout le monde le fait, c'est la politique du travail. Et après tout, c'est quoi une boîte de vis comparée à la construction complète d'un chalet en Valais, comme certains l'ont fait? Nous en avions parlé parce que sa valeur d'honnêteté en prenait un sacré coup. Et finalement, heureusement, il n'a pas touché à cette boîte de vis. La limite entre cette politique de travail et le vol ne devait pas être franchie, peu importe l'insignifiance de l'objet convoité. C'était une valeur qu'il avait décidé de porter, même s'il ne s'agissait que d'une boîte de vis. Et après ce vaste coup de filet, tout a changé. Les chefs de service étaient mis sous pression et les employés avec. Désormais, tout est passé au crible pour ne plus rien voler. Tout est soumis à une montagne d'administration qui prend du temps et de l'énergie. Et aujourd'hui, cette même boîte de vis est sous contrôle. Si Joël veut en acquérir une pour son travail ou toute autre fourniture à partir d'un certain montant, son fournisseur, donc il doit aller voir son fournisseur pour qu'il lui propose une offre. Ensuite, Joël prend cette offre et doit la soumettre à la personne en charge des bons de commande à condition que cette personne soit présente. Et puis, retourner auprès du fournisseur pour passer la commande. Des allées et venues qui prennent un temps considérable. Et il lui est arrivé de perdre une demi-journée juste pour passer une simple commande. Une administration pesante qui l'empêche d'avoir une dynamique de travail satisfaisante. Ça peut paraître de petites choses, mais dans un quotidien de travail, ça pèse sur le moral. Son métier n'est plus d'être performant ou rentable, mais de se plier à ce vaste et lourd système qui s'est endurci à cause de personnes qui ont triché et volé et d'autres qui ont juste voulu se protéger derrière un mur hiérarchique et administratif. Maintenant, comment garder l'esprit ouvert au travail? Comment trouver encore du plaisir à travailler? Alors qu'il y a encore tant de choses qui mettent les nerfs à dure épreuve, comme la réduction de la caisse de retraite, des budgets, etc. Il y en a tellement. Comment ne pas finir en burn-out sous le poids des vastes machines que sont nos administrations qui gèrent notre travail et notre société? Pour beaucoup de fonctionnaires, c'est un vrai dilemme, voire même une souffrance, comme pour des patrons de PMA qui se retrouvent souvent entre le marteau et l'enclume, ou comme pour d'autres employés d'entreprises beaucoup plus grandes qui mettent le profit au-delà de l'éthique et de la qualité de vie des employés. Se soumettre à la politique de la langue de bois, se soumettre à un système qui met tout en œuvre pour garder une image extérieure valable tout en masquant le chaos intérieur. Je sais que c'est la réalité quotidienne que beaucoup d'entre vous vivez dans votre travail, dans vos semaines. Alors, quel rapport avec ce qu'a vécu Daniel et ses amis à Babylone? Eh bien, celui de définir nos valeurs intrinsèques que nous porterons coûte que coûte malgré l'opposition et le poids des systèmes dans lesquels nous vivons. Savoir définir nos limites afin que face à une montagne gigantesque qui pourrait bien finir par nous écraser, nous puissions définir notre espace de vie, notre espace pour vivre. Car malgré tout, nous devons vivre. Et je pense que c'est ce qui a permis à Daniel de définir ses limites et sa vie là-bas à Babylone. C'est bien la sagesse de Dieu. Une sagesse qui lui a permis de naviguer en eau trouble. Une sagesse qui va le sortir de bien des pièges et des impasses, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. La sagesse de Dieu l'a porté, l'a conduit. Daniel a sans doute dû apprendre à mettre de côté beaucoup de ses vieilles croyances pour rencontrer la volonté du Seigneur en terre d'exil. Car même en exil, Dieu était avec son peuple. Même dans nos plus douloureux conflits, avec nos hiérarchies, nos systèmes administratifs, et même avec les plans de protection sanitaire, le Seigneur nous accompagne. La sagesse de Dieu est un don qui vient d'en haut. À nous de l'accueillir, de lui faire bonne place. Pouvoir vider d'autres pensées ou interprétations du monde pour accueillir la sagesse de Dieu telle qu'elle est. L'être humain fonctionne souvent sur une base de peur. Et je suis bien placée pour le dire, je suis une très grande angoissée qui doit apprendre à ne plus réagir de prime abord par la peur. Car souvent, une action envers et contre nous entraîne en nous une réaction subite instinctive et irréfléchie. Des réactions que souvent nous pouvons bien regretter après coup. Mais accueillir la sagesse, c'est mettre un espace avant la réaction. Un espace pour se rapprocher de ce que Dieu a mis au plus profond de nous et que nous ne pouvons pas trahir. Un espace-temps pour sonder aussi la volonté de Dieu dans nos prières. Car si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ? Et il est bon de prendre un instant pour se rappeler que Dieu veille sur nous. Babylone était un monde terrible et oppresseur, comme tout un tas de réalités le sont dans notre monde humain aujourd'hui. Deux mondes aux antipodes qui s'entrechoquent. Cela mène à quoi ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce genre de conflit des mondes et des consciences ? Sans doute, de veiller à notre cœur plus que toute autre chose, car il est la source de ce qu'il fait notre vie. Proverbe 4, 23. La sagesse demande de discerner la voix de Dieu, de savoir mettre de côté de vieilles croyances qui se révèlent fausses, et d'avoir le courage d'être parfois à contre-courant. On doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose de très fort en nous pour pouvoir tenir bon dans les vents contraires. Et cela, c'est Dieu qui nous le donne. Alors pour finir ce temps de message, j'aimerais vous lire ce que dit le livre des Proverbes au sujet de la sagesse en Proverbe 2. Car la sagesse est vraiment un don de Dieu. Mon enfant, reçois ce que je t'enseigne et retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, recherche-les comme un trésor caché. Alors, tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les personnes qui mènent une vie droite. À la manière d'un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie. La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. La sagesse, c'est un don, parfois un trésor bien enfoui au fond de nous-mêmes, mais c'est une richesse qui dépasse de loin toute celle du monde. Elle est là en nous, par la grâce de Dieu. Amen.
Je vous propose de prendre un petit moment pour laisser résonner cette parole et la mettre en lien avec ce que nous vivons. Et vous pouvez aussi exprimer une prière. Il y aura... Daniel, tu peux passer dans les rangs ou bien tu veux que... Est-ce que... Voilà, merci. Voilà. Donc, si vous voulez prier, merci de faire signe pour que chacun... en présentiel ou à distance, puisse bénéficier de votre prière.
Dieu, merci pour ce message. Et merci pour l'histoire de Daniel qui nous montre que nous avons nos propres limites en tant qu'êtres humains et Et par ta grâce, tu peux nous aider à les connaître dans le milieu du travail et savoir comment gérer les situations difficiles, les situations où parfois on peut se perdre dans moult idées, pensées, mais finalement qui ne viennent pas de toi. Et apprends-nous, tout comme Daniel, à connaître nos limites et à nous respecter pour aussi mieux te respecter. Merci pour ce message. Au nom de Jésus, amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur, qui est un repère. Seigneur, merci aussi pour cette Bible qui nous donne le vécu des personnes que tu as décrites, et Seigneur, qui nous donne des références. Et nous voulons vraiment demander ton Esprit Saint pour que cette sagesse soit en nous, Seigneur, et quand il y a des situations un peu délicates, nous puissions nous rappeler, Seigneur, ce que toi tu as vécu, ce que d'autres ont vécu dans ta parole, et Seigneur, être pour nous des guides. Alors merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide aussi dans ces moments parfois délicats. Amen.
Seigneur, je pense à tous ceux qui sont envahis par les angoisses, par des pensées négatives, le sentiment d'être écrasé par toute l'ambiance de notre société. Seigneur, ils cherchent ou ils pensent avoir trouvé la sagesse, mais cette sagesse les perd, parce que ce n'est pas la bonne sagesse, Seigneur. Ce n'est pas la sagesse qui donne à la fois la paix et la confiance en toi. Et je te prie, Seigneur, que se révèle dans nos communautés cette sagesse véritable qui nous rassure parce qu'elle vient de toi et elle est plus forte que toutes les peurs et les angoisses suscitées dans le monde. Seigneur, aie pitié de tous ceux qui te connaissent et qui ne savent pas où est la vraie sécurité et la vraie sagesse en toi. Amen.
Seigneur, sois notre garde-fou quand nos émotions, ce qui se passe en nous, nous submerge et nous font réagir d'une mauvaise façon, soit notre garde-fou, qu'avant de réagir, nous nous souvenions que tu es là, que je me souvienne que tu es là, que je n'ai pas besoin d'avoir peur, parce que c'est toi ma sécurité. Amen.
Oui, Seigneur, accompagne-nous chacun dans nos chemins de vie, nos situations différentes. Accorde-nous cette sagesse qui vient de toi et qui nous permet de garder, ce qui nous permet d'être en relation avec les autres, mais de rester accroché à ce qui est profondément ta justice, ta bienveillance. Oui, accompagne chacun de nous, Seigneur. Amen. Et nous vous proposons un dernier chant qui nous ramène à cette source ultime de la sagesse qui est en Jésus. Tout me vient de toi.
sur mon cœur, car par ton nom j'étais libéré. Tout me vient de toi, tout me vient de toi. Une parole, une tendre voix qui me rappelle tout au fond de moi que je suis libre. Tu as tout effacé, tout me vient de toi, tout me vient.
Johan pour les annonces.
Bonjour à chacun. Alors, pour les annonces cette semaine, il y a la prière communautaire mardi à 20h15 ici à l'église. Ensuite, jeudi, nous avons la rencontre du conseil à 19h15. Et puis, on va aussi vous inviter à vous projeter un petit peu dans l'avenir. Je sais que c'est pas une mode avec le Covid de prévoir à l'avance. Mais au dernier colloque, on avait parlé d'un éventuel week-end d'église, alors les circonstances étant ce qu'elles sont. Le groupe qui organise ce week-end a proposé, fin d'année dernière, de faire deux journées de sortie d'église qui pourront se faire en plein air, ce qui est une très très bonne idée. Donc, à vos agendas, dimanche 22 mai 2022, alors là, on va se déplacer dans le canton de Vaud, à la cantine du Solia, à la Vallée de Joux. Et puis aussi, le jeudi 8 septembre, donc c'est deux sorties durant l'année. Le jeudi 8 septembre, c'est le Jeune Genevois. Et puis là, on ira aussi à la Vallée de Joux, à un autre endroit, le refuge des Ermitages. Voilà. Et puis, encore une dernière nouvelle aussi pour vous indiquer que par rapport au compte de fin d'année, nous avons atteint nos objectifs par rapport au budget qu'on s'était fixé. Et on remercie tous les membres, tous les donateurs, les amis de l'Église pour cette générosité qui est une grande bénédiction. Merci à chacun et bon dimanche.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale que je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 24. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Que Dieu, la source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira cela. Allez dans votre semaine, accompagné de la grâce et de la sagesse de notre Seigneur. N'oubliez jamais qu'il veille sur vous, chaque jour, à chacun de vos pas. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.